إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان القصيري حفظه الله تعالى. طيب، فنواصل قراءة كتاب النكاح. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. نعم، وهذا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. أخرجه البخاري. Donc on poursuit inshallah ta'ala l'explication de منهج السالكين. Et nous sommes toujours dans le chapitre de An-Nikah, le chapitre d'An-Nikah, c'est-à-dire le contrat de mariage. Voyez ? Donc il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, il n'est pas permis à l'homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage par, yani bien sûr, un frère musulman, Tayyib, jusqu'à ce que ce frère-là, qui a demandé un mariage, yani en premier, lui donne l'autorisation ou abandonne yani cette demande en mariage. Tayyib, et donc, al-khitba, ma hiya talabu zawaj min al-mar'a. Tayyib. Donc, on avait dit que al-khitba, c'est quoi? C'est la demande en mariage, d'accord? Le fait que l'homme demande en mariage une femme, d'accord? Donc, lorsque un homme yani, a demandé en mariage donc une femme et qu'ils se sont mis d'accord sur les conditions du mariage ou sur la dot, etc., et qu'il ne manquait plus qu'à faire le contrat de mariage, eh bien, bien sûr, dans ce cas-là, il est interdit pour un autre homme de commencer yani, la démarche de la demande en mariage avec cette femme. Sauf si, encore une fois, le premier abandonne yani, cette demande en mariage, il laisse tomber et annule la demande en mariage, ou alors qu'il délaisse, ou plutôt qu'il autorise hein, le second à la demander en mariage. Taïeb. Non. Et donc cela en vertu du hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit yani que l'homme n'a pas le droit de de vendre, yani sur la vente de son frère. De vendre sur la vente de son frère. Et également, il n'a pas le droit de demander un mariage sur la demande en mariage de son frère, yani entre parenthèses, musulman, bien sûr. Sauf si il lui autorise cela. Donc, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, concernant la vente, c'est pareil. Taïb. Donc, quand un vendeur s'est mis d'accord avec un acheteur sur le prix, etc., etc., et qu'il ne restait plus qu'à faire le contrat de vente, yani, personne n'a le droit d'aller voir le vendeur, par exemple, pour lui dire annule ton contrat, annule plutôt ta vente avec le premier client. Moi, je te l'achète, yani, à un prix plus élevé, par exemple. Ça, c'est interdit. D'accord? Ou le vendeur va voir yani, un acheteur qui a déjà émis sa volonté d'acheter une marchandise chez un autre vendeur. Et tu as un deuxième vendeur qui va voir le client pour lui dire, moi, je te vends la même marchandise, mais moins cher. Ça, c'est interdit également. Taïeb. Et bien sûr, voilà, yartoub ala khitbati akhi. Yani que personne ne demande en mariage une femme qui a déjà été demandée par yani son frère musulman. Taïeb. Yani par un musulman. Sauf avec son autorisation rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Et également le hadith d'Abi Huraira qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc dans le même sens hein, du hadith, que l'homme n'a pas le droit de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage par un musulman. Et bien sûr, les discussions ont été faites entre l'homme, entre le tuteur de la femme, il ne restait plus qu'à faire et le contrat de mariage. Donc personne n'a le droit d'aller et de demander cette femme-là en mariage. Donc jusqu'à ce qu'elle se marie donc avec cet homme-là, ou jusqu'à ce que l'homme abandonne yani, sa demande en mariage. Donc le hadith, celui-là, rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز التصريح بخطبة المتعدة بخطبة عفوا بخطبة المعتدة لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة طيب فالتصريح أن يقول مثلا زوجوني ابنتكم أو يقول لها أريد أن أتزوج بك والمعتدة من هي المعتدة؟ هي المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طيب أو المطلقة أعيد هي المتوفى عنها زوجها أو المطلقة المطلقة سواء أكان طلاقا رجعيا أو بائنا حتى تنتهي عدتها إذن يحفظ يا أخي هذا التعريف للمعتدة المعتدة هي المتوفى عنها زوجها أو المطلقة سواء أكان طلاقا رجعيا أو رجعيا أم بائنا حتى تنتهي عدتها طيب أما التعريض في خطبة البائن من زوجها بموت يعني بموت زوجها أو طلاق أو خلع أو فسخ فمباح طيب بيجي لوتا رحمه الله تعالى et il est interdit également de faire ce qu'on appelle un tasrih d'accord donc un tasrih c'est une demande explicite en mariage d'accord donc il est interdit de demander explicitement en mariage la femme que l'on dit al mu'tadda de façon absolue. Donc, c'est qui le mu'tadda ? On va le dire, Inch'Allah. Donc, un tasrih, d'abord, la demande en mariage, bitasrih, de manière explicite, c'est le fait de dire, par exemple, que l'homme, il dise à la famille de la femme, zawijuni ibnatakum, mariez-moi avec votre fille, par exemple. Ou qu'il dise, de manière claire, explicite, je veux me marier avec toi. En parlant à la fille, il dit, je veux me marier avec toi. Donc là, c'est une demande en mariage, yani bitasrih, d'accord, de manière explicite. Donc elle mu'tadda, donc cette femme, elle mu'tadda, que on n'a pas le droit de demander en mariage de manière explicite, c'est la veuve, c'est celle dont le mari donc est décédé et qui est encore dans sa période de veuvage, d'accord, ou de viduité. Celle-là, on l'appelle al-mu'tadda. Mais également celle qui est divorcée, celle qui a été divorcée et qui est toujours dans sa période de viduité. Donc celle-là, on n'a pas le droit de la demander en mariage de manière explicite. Que ce soit un divorce, yani rij'iyan, pendant lequel le mari a le droit de la reprendre, ou même un divorce qui fait que, par exemple, c'est le troisième divorce, donc son mari n'a pas le droit de la reprendre dans tous les cas, mais malgré ça, le fait qu'elle soit toujours dans sa période d'idda, d'éviduité, on n'a pas le droit de formuler une demande de mariage de manière explicite à cette femme-là. Taïeb. Donc ça, c'est at-tasrih. D'accord? At-tasrih par rapport à al-mu'tadda. Naam. At-tasrih, on y'a qu'oula mathalan, ma la yahtamil illa al-nikah, mithla zawijni ibnatak, ou y'a qu'oula laha, ou ridu al-zawaj abiki, ou يعني زوجيني نفسك ونحو ذلك. Donc, التصريح, encore une fois, c'est une parole, une formule qui ne peut exprimer que le mariage. D'accord ? Il n'y a pas d'autre sens possible dans la formule. D'accord ? Cela peut exprimer qu'une demande en mariage. Comme par exemple, marie-moi ta fille. Donc, celui qui dit marie-moi ta fille, c'est une demande de mariage qui est explicite, du tasrih. D'accord ? Ou je veux me marier avec toi. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure. Ou alors, marie-moi à toi. Et ce genre de formule, donc, rentre dans ce qu'on appelle al-tasrih. Taïeb. Puis on a ce qu'on appelle al-ta'arid. Donc al-ta'arid, c'est autre chose. C'est une demande en mariage, entre guillemets, mais qui est implicite. Qui est implicite. On va dire c'est une façon d'exprimer son désir de se marier ou son intérêt pour telle ou telle femme, d'accord, mais implicitement. C'est pas explicite, c'est implicite. On va donner des exemples, inshallah ta'ala. D'accord? Donc c'est ça. Quant à ta'arid, d'accord, à ta'arid, l'implicite, au sujet de la demande en mariage de la femme qui est ba'in. Qui est ba'in. Il y en a celle, par exemple, la veuve. Donc la veuve, bien sûr, pourra. Ça y est. Donc elle est veuve, son mari il est mort. Taïeb. Donc celle-là, ou alors celle qui est divorcée, mais d'un divorce qui fait que son mari ne peut plus la reprendre, ou un khul'a, hein, l'annulation du mariage en échange d'un bien de la part de la femme, d'accord, ou l'annulation simplement du mariage faite par exemple par le juge islamique, etc. Donc, donc le fait d'exprimer son envie de se marier avec cette femme-là, qui est dans sa période de viduité, que ce soit la veuve ou celle qui est divorcée d'un divorce que son mari ne peut pas donc revenir à elle, Jayid, eh bien, un ta'arid, dans ce cas-là, c'est permis. Un ta'arid, dans ce cas-là, c'est permis. D'accord ? وَلِهَذَا قَالَ أَشَيْخ وَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ الْبَائِنِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. Donc التعريض c'est permis, comme dit le cheikh, c'est permis dans donc le fait de demander en mariage la femme qui est ba'in. Qui est ben donc la veuve, par exemple, ou autre que elle, pendant sa période de idda. Comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens du verset de la sourate Al-Baqarah, verset 235. Et vous ne commettez aucun péché à faire, yani à ces femmes-là, allusion à une proposition de mariage. D'accord ? Donc c'est une allusion, une expression. D'accord ? Donc, ce n'est pas explicite. C'est implicite. Taïeb. Donc, il dit à Allah, il n'y a pas de péché pour vous à ce que vous fassiez cela. Donc, ta'arid, on va donner quelques exemples d'expression de ta'arid. Le fait de dire, par exemple, je recherche quelqu'un comme toi. Donc là, ce n'est pas une demande en mariage directe. On va dire que c'est implicite, c'est indirect. Je recherche une femme comme toi. D'accord? Je recherche à me marier avec une femme dans ton genre, par exemple. Aoula tufawitini nafsak. Yani, fait que je ne passe pas à côté d'une femme comme toi, par exemple, ce genre d'expression-là, de manière indirecte et implicite. On appelle ça at-ta'arid. Donc, at-ta'arid, pendant la période de idda, pour ces femmes-là, qui ne peuvent pas donc retourner avec leur mari, soit qui sont morts, soit qui les ont divorcés d'un troisième divorce, ou alors d'un khul', d'accord, ou d'une annulation de mariage. Dans ce cas-là, yani, at-ta'arid est permis. Non. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل سنن. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حديث Hassan. Puis dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala, et il faut que lors de la demande, ou plutôt lors de du contrat de mariage, même, lors du contrat de mariage, que l'on fasse ce qu'on appelle khutbatul haja, hein, la formule, taïeb, ou les paroles que l'on appelle khutbatul haja. Notamment celle donc qui a été rapportée par Abd Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Donc lui, il a appelé At-tashahud fil haja. At-tashahud fil haja. D'accord? Ou communément appelé Khutbatul haja. Donc dans lequel le prophète, donc il aura enseigné cette parole qui est Inna alhamdalillah. D'accord? Donc la louange, toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons pardon, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos personnes, contre nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration, sauf Allah, tabaraka wa ta'ala, l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad et son serviteur et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a récité trois versets. D'accord? Il a récité trois versets, donc, ce hadith rapporté par Ahl Sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, et Tirmidhi, il dit, c'est un hadith qui est hassan, qui est bon. Fa, al-thalath, al-ayat, fassaraha ba'duhum, wa hiya qawluhu ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wal ayat al-ula min surat al-nisa, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني الآيتين من سورة الأحزاب وتمامها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puis il dit, donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, donc c'est quoi ces trois versets que le prophète leur a enseigné de dire après la khutbatul haja, donc il fait partie de la khutbatul haja, taïeb. Donc certains ont expliqué que ce sont d'abord le premier, celui de la surat Ali Imran, le verset 102, taïeb, dans le sens rapproché, Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit, ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Puis on a le premier verset de la sourate An-Nisa. où Allah tabarak wa ta'ala, dans le sens rapproché, il dit: ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, dont il tira son épouse et qui, de leur union, répandit sur terre nombre d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Allah vous observe parfaitement. Et enfin, le troisième verset de la sourate Al-Ahzab, versets 70 et 71. Dans lesquels Allah tabarak wa ta'ala, il dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et tenez des propos justes, afin qu'il amende vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtiendra un immense succès. Taïeb. ثم قال: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو لفظ صادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك. زوجتك أو أنكحتك. طيب. فهذا يصح بكل قول يدل عليه، كملكتك ابنتي ونحوي. Là, on va passer à deux choses qui sont obligatoires et qui sont même yani, deux piliers des piliers du contrat de mariage. D'accord ? Donc, il dit le shaykh, donc rien n'est obligatoire si ce n'est d'abord el-ijab. Donc, déjà, le fait qu'il dise rien n'est obligatoire si ce n'est el-ijab, ça veut dire que khutbatul haja, ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Donc, si l'on ne fait pas khutbatul haja yani, durant le contrat de mariage, le contrat il est valide si bien sûr les piliers et les obligations, les conditions sont respectées. D'accord ? Donc, khutbat al-haja, c'est une sunna. Donc, il dit, si ce n'est al-ijab. C'est quoi l'ijab ? Al-ijab, c'est la formule que va prononcer al-wali, le tuteur. Donc, le tuteur de la fille, c'est lui qui va formuler ce qu'on appelle al-ijab. Donc, al-ijab, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est, par exemple, le fait qu'ils disent « Je te marie ». Zawajtuka. Donc, il s'adresse à l'homme. Donc, le tuteur de la femme va s'adresser à l'homme et va lui dire « Je te marie ». D'accord ? Zawajtuka ou ankahtuka. Donc là, c'est en arabe, mais si la personne, bien sûr, le dit en français ou dans la langue yani, que les gens comprennent à ce moment-là, et qui sont présents, et qui expriment donc le fait que le tuteur donne la main de sa fille ou de sa sœur, par exemple, si c'est le frère, c'est le tuteur de la fille, etc. Eh bien, ça c'est donc le premier pilier, ce qu'on appelle el-ijab. D'accord ? Donc toute formule qui va exprimer cela, telle que malaktuki, ou malaktuka afwan ibnati. Donc je te donne, yani, ma fille en mariage, etc. الركن الثاني القبول. القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحو. أي ولا يجب من الأقوال في عقد النكاح إلا الإيجاب والقبول لأنهما ركنا النكاح فإذا وجد صح النكاح. Et le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle « al-qaboul ». D'accord ? « Al-qaboul », l'acceptation. Donc, c'est la formule qui sera prononcée par l'homme. D'accord ? Celui qui a demandé un mariage, la femme. Ou son remplaçant. Donc, il se peut que l'homme ait délégué quelqu'un pour le remplacer. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, « al-qaboul », le fait de dire, par exemple, j'accepte ce mariage. D'accord ? Donc, une fois que le tuteur lui a dit, je te marie une telle, lui va répondre, j'accepte ce mariage avec une telle. Ou tout simplement, qabilt, j'accepte. D'accord ? Et autre que cela, parmi les formules exprimant la même chose. Donc, il dit le cheikh Suleyman al-Qusayr, rahimahullah ta'ala, donc il est, parmi les paroles, seules celles-là sont obligatoires. Seules celles-là sont obligatoires dans le contrat de mariage. Donc la première parole qui est l'ijab, et la deuxième qui est el-qaboul. Donc ce sont deux pilier du contrat de mariage. Donc, si elles sont, sont si ils sont yani, présents, eh bien, le contrat, il est valide. D'accord? Bon, là, il n'a pas mentionné le troisième pilier. Il faut savoir qu'il y a un troisième pilier qui est que, bien sûr, que les deux personnes existent. D'accord? Donc, l'homme, la femme. Et que ces deux-là n'ont aucun obstacle yani, pour se marier l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des frères et sœurs, par exemple. Ce n'est pas des frères et sœurs. Ce n'est pas le père et la fille. D'accord? Ou alors, ils ont pas, ils sont pas frères et sœurs au niveau de l'allaitement. Taïeb. Comme on dit, des frères et sœurs de lait. Ce n'est pas des frères et sœurs de lait. Ou alors, yani, les deux sont musulmans. D'accord? Donc, l'homme est musulman, la femme est musulmane. Alhamdoulilah. Donc, s'il n'y a rien qui empêcherait cela, tel que, exemple, le fait que l'homme ne soit pas musulman, par exemple. Donc, si la femme est musulmane mais que l'homme n'est pas musulman, bien sûr. Là, on aura le troisième pilier qui ne sera pas respecté. D'accord? Donc, il faut obligatoirement ces trois piliers-là pour que le contrat de mariage soit valide. Taïeb. إذن هذا هو القبول. مثله رضيت أو وافقت ونحو ذلك. ويقول نائبه قبلتها لموكلي وما شابه ذلك. وما شابه ذلك. ويزاد ركن ثالث وهو الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالرضاع واختلاف الدين والعدة ونحوها. Donc, on le répète encore une fois, inshallah ta'ala. Donc, le premier pilier, c'est l'hijab, le fait de dire je te marie, je te donne la main de ma fille, par exemple. Jayid. Et le deuxième pilier, qu'est-ce que c'est? C'est al-qaboul, l'acceptation, donc le fait de dire, exemple, j'accepte le mariage ou j'agrée, je suis satisfait de ce mariage, je suis d'accord, d'accord? Et en ce qui concerne, si jamais c'est pas le mari qui est présent, mais son remplaçant ou la personne qui l'a, son suppléant ou son délégué, eh bien il dira, je l'accepte pour celui qui m'a délégué, un tel. D'accord? J'accepte cette femme-là en mariage pour celui qui m'a délégué. D'ailleurs, donc il précise qu'il n'est pas la personne qui a demandé un mariage, mais seulement le suppléant. D'accord? Et autre que cela parmi les expressions. Et on a donc un troisième pilier, comme on a dit, qui est que les deux personnes soient exemptes de toute chose qui pourrait empêcher le mariage ou la validité du mariage, telle que frères et sœurs de lait, la différence de religion. Excepté pour l'homme, bien sûr, qui peut se marier avec une femme des gens du livre, avec les conditions qui doivent être présentes, d'autres conditions encore pour cela, ou alors la période de viduité, ça y est, donc si la femme est dans sa période de viduité, bien sûr, elle n'a pas le droit de contracter un contrat de mariage, et autre que cela, parmi les obstacles qui pourraient l'en empêcher. Ça y est. Alhamdulillah. نكتفي بهذا إن شاء الله. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et on continuera donc lundi prochain. On rentrera dans le sous-chapitre qui est les conditions du mariage ou du contrat de mariage. بارك الله فيكم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.